الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه الليلة ليلة الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الخامس في شرح هذه الرسالة القيمة النافعة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Sommes le 17 novembre 2019 et nous voici réunis pour le cinquième cours de l'étude du livre intitulé Les mérites de l'Islam par l'auteur Mohammed fils de Abdul Wahhab, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés sur le chapitre intitulé Bab Man Kharaja La Non Bab Ma Ja'a fi al-Khuruj 'an Da'wa al-Islam, chapitre concernant la sortie de l'appellation de l'Islam. Et nous avons vu tout ce que cela voulait dire et la gravité de cet acte. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit « Bab wujubi d-dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwa » Chapitre suivant, concernant l'obligation d'entrer entièrement en islam et délaisser tout autre que lui. L'obligation d'entrer en islam, et la deuxième chose, c'est l'obligation d'entrer entièrement en islam. Quant à l'obligation d'entrer en islam, nous l'avons vu dans un chapitre précédent. Il s'agit ici, lorsque l'on entre en islam, d'y entrer pleinement, dans le sens d'accepter toutes les prescriptions islamiques, et ne pas faire comme ceux qui choisissent, dans les prescriptions islamiques, ce qui va avec leur passion. Et dès lors que quelque chose ne va pas avec leur passion, ils rejettent cette chose, ils ne l'appliquent pas, ils lui tournent le dos. Non, ce qu'il faut faire en tant que musulman, c'est entrer pleinement dans l'islam et accepter tout ce qui en fait partie. Voilà le rôle du croyant et son devoir. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne cet ordre, comme on le voit très clairement dans le verset mentionné par l'auteur, le premier verset, lorsqu'il dit « Wa qawlillahi ta'ala » يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. Ô vous qui avez eu la foi, entrez pleinement dans le silm. Et ce qui est voulu par le mot silm, c'est l'islam, comme les salafs l'ont expliqué. Allah Azza wa Jal nous invite donc dans ce verset à accepter tout ce qui vient de l'islam, tout ce qui est prescrit dans l'islam, et d'entrer pleinement en islam. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit بِمَعْنَا أَنَّكَ تَقْبَلُ الْإِسْلَامَ كُلَّ فَلَا تَأْخُذْ بَعْضَهُ وَتَتْرُكْ بَعْضَهُ. Cela veut dire qu'il est obligatoire d'accepter tout l'islam. Il ne faut pas accepter une partie et en rejeter une autre. Voilà l'islam qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne d'accomplir. Car nous dit le Cheikh Al-Fawzan, celui qui prend une partie de l'islam et renie une autre, il n'est pas musulman en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Sourate An-Nisa, dans le sens des versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, ceux qui ont mécru en Allah et ses messagers, et qui veulent faire une division entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en une partie, et nous ne croyons pas en une autre. À la fin des versets, ceux-là sont les mécréants. Oulaika humul kafirun haqqan. Ceux-là sont les vrais mécréants, comme Allah nous le dit, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui croit à certains messagers ou certains livres et mécroit à d'autres livres, il mécroit à d'autres messagers, il n'est pas de l'islam. Il est mécréant à l'unanimité, nous dit le Cheikh Saleh al-Fawzan. La buddha min al-iman bi kulli al-rusul wa bi kulli al-kutub. Idha kana ahad yu'minu bi ba'd al-rusul wa yakfur bil akharin wa laysa bi muslim. Fahimt? Wa kadhalika al-kutub. Yaqul ana u'minu bil Qur'an wa la u'minu bit Tawrah wa la u'minu bil Injil. Huwa kafir, laysa bi muslim. المسلم هو الذي يؤمن بكل الكتب وكل الرسل. أنت تؤمن بكل الرسل؟ الحمد لله. الله تبارك وتعالى dit dans le verset: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Est-ce allez-vous croire en une partie du livre et renier une autre? La rétribution de ceux qui agissent ainsi n'est autre que l'humiliation dans cette vie d'ici-bas. Quant à là, au jour de la résurrection, ils seront renvoyés au châtiment le plus violent, le plus sévère. Et Allah n'est aucunement insouciant de ce que vous faites, ou inattentif à ce que vous faites, subhanahu wa ta'ala. Le devoir qui incombe aux musulmans, c'est donc d'accepter tout de l'islam, et de ne pas agir à la manière de ces gens-là, qui acceptent ce qui va en conformité ou ce qui est en conformité avec leur passion, et dès lors que quelque chose n'est pas en conformité avec leur passion, ils le renient, ils disent que cela ne fait pas partie de l'islam. Ils n'en veulent pas, comme certaines prescriptions religieuses gênantes pour les gens au cœur malade. À l'image du port du voile islamique pour la femme musulmane, qui est une prescription sur laquelle il n'y a nul doute dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais dès lors que certains n'acceptent pas cette prescription, ils la renient. Et pourtant, ce sont eux qui disent « Nous sommes des musulmans ». Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Udkhulu fi silmi kaffa » Entrez pleinement en islam. Cela implique que tu acceptes cette chose-là et que tu ne dises pas que cette époque où ce verset ou ces versets ont été révélés est différente de celle-ci dans laquelle nous vivons. Ainsi, on n'en a plus besoin. Nous sommes musulmans. Allah le sait. Allah sait ce qu'il y a dans le cœur. Le plus important, c'est le voile dans le cœur. Ton cœur est voilé. Ton cœur est voilé. C'est pour ça que tu tiens ces propos. Il est voilé, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas permis de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi en tant que serviteur qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est qu'un exemple lorsque je parle du voile, mais cet agissement existe et se manifeste avec beaucoup de prescriptions de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme la prière. Il dit, je suis croyant, je suis musulman, mais je n'ai pas besoin de prier. Pourquoi devrait-on prier à partir du moment où nous sommes sincères? Beaucoup de gens vont à la mosquée, mais je connais certains qui ne prient pas et qui sont pourtant meilleurs que cette ruse de shaitan. Comment pourrait-il être meilleur que quelqu'un qui pose son front au sol pour implorer Allah, malgré les péchés qu'il est susceptible de commettre? Il ne peut pas être meilleur que celui qui pose son front au sol. C'est impossible. Voici la ruse de Shaitan pour tromper les gens. Allah nous ordonne d'accepter tout de l'islam. Tout ce qui vient d'Allah doit être accepté. Ça ne doit pas être polémiqué, ni discuté, ni débattu, ni rejeté. Mais ça doit être accepté dès lors qu'il est affirmé que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fi silmi kaffa, entrez pleinement dans l'islam, dans le silm. Et le silm, C'est l'islam, comme les salafs as-salih, les pieux prédécesseurs, l'ont expliqué. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans l'islam avec désir et envie et aimer ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'accepter. Allah ta'ala, l'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ الْآيَة. Dans le sens du verset rapproché, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir eu la foi en ce qui a été descendu vers toi et ce qui a été descendu avant toi? Le verset est plus long, mais l'auteur, rahimallah, s'est contenté de citer la partie correspondant au chapitre. Mais le Cheikh Saleh Al-Fawzan, lorsqu'il va expliquer, il va citer tout le verset. Et ça va nous permettre de comprendre ce qui est voulu par Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit, « Alam tara ila alladhina yaz'umun » Ne vois-tu pas ceux qui prétendent? La prétention, ce que l'on appelle en arabe « al-za'm », c'est du mensonge. C'est-à-dire que la personne prononce des paroles qui ne sont que des prétentions, qui ne sont pas véridiques. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et cela prouve, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, que cette prétention dont Allah Azza wa Jal va parler dans ce verset n'est pas correcte. Elle n'est pas authentique ni valable chez lui, subhanahu wa ta'ala. Quelle est-elle? Voici le verset dans son entièreté. يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ils prétendent avoir eu foi en ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé avant toi. يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Et ils cherchent à prendre comme juge le Tarut. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Alors qu'ils ont eu l'ordre d'y mécroire. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et le diable veut les égarer loin dans l'égarement. Il faut donc prendre le jugement venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui refuse le jugement émanant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui le rejette, le renie, le met de côté pour choisir autre que celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas musulman par cet agissement. Même s'il prétend être musulman, et la preuve est ce verset. Car Allah Azza wa Jalla a dit, يزعمون, ils prétendent avoir eu la foi. Allah Azza wa Jalla a dit de leurs paroles qu'elles ne sont que des prétentions. Elles ne sont donc pas acceptées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, ils veulent prendre le tarout pour juge. Ici, Allah Azza wa Jalla n'a même pas parlé de l'action de prendre tarout pour juge, mais de l'envie de prendre le tarout pour juge. Ils veulent prendre le tarout pour juge. Et pour cette envie qu'ils ont eue, ils ont été concernés par ce verset. Que dire alors, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, de celui qui l'applique? Il n'a pas seulement l'envie, mais qui applique cette chose-là. Et là, on voit l'obligation donc de prendre ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'accepter l'islam dans son entièreté. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit, وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَى لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Dans le sens du verset, certes, ceux qui ont émietté leur religion, ils ont divisé, ils l'ont découpé en plusieurs parties, ils l'ont émietté, ceux qui ont émietté leur religion, et qui ont formé plusieurs groupes, tu n'as rien à voir avec eux. Tu ne fais pas partie d'eux. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit la division en blâmant ceux qui ont divisé la religion et en disant que le prophète alayhi salatu wa salam n'a rien à voir avec eux. Ce qui implique que ces gens-là n'ont pas pris tout de la religion. Ils ont divisé. Ils se sont réclamés de l'islam, mais dans l'islam, ils ont eu des façons d'appliquer différentes et variées en fonction des idéologies à laquelle ils ont adhéré des groupes qu'ils ont suivis, des partis qu'ils ont pris, et ainsi de suite. Ces gens-là, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, n'ont rien à voir avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont formé des groupes, comme les groupes contemporains. Ils sont pleinement concernés par ce genre de verset. Ils sont pleinement concernés. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit, c'est une mise en garde d'Allah tabaraka wa ta'ala adressée aux musulmans contre le fait de former plusieurs groupes. Naam, ceci car la croyance est unique, la méthodologie à suivre est unique, la compréhension du Coran et de la Sunna, toutes ces choses-là nous sont déjà définies, délimitées, elles nous sont déjà tracées. Nous n'avons pas à former des groupes et à instaurer de nouvelles règles de compréhension de religion, car cela est l'action blâmée par Allah, subhanahu wa ta'ala, de se diviser en plusieurs clans, et chacun appelle à son groupe et à son clan, et taxe d'égarer celui qui n'adhère pas à sa méthodologie, à sa croyance. Les musulmans ne doivent former qu'un. En se mettant en accord dans les fondements de leur religion, dans les sources de leur religion, dans la croyance qui est la base de leur religion. Car sinon, un tel agissement reviendrait aux agissements des gens de la Jahiliyyah, de l'ère pré-islamique. Ils doivent être tous ensemble, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, et dès lors qu'il y a divergence entre eux, leur façon de se conduire doit être le retour au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre un terme à cette divergence. Allah Azza wa Jalla a dit فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous disputez dans une chose quelconque, il y a divergence, une dispute, un désaccord, une mésentente, renvoyez-la à Allah et au messager. Renvoyez-la à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire au livre d'Allah. Voyez ce qu'Allah dit concernant cette chose ou ce genre de choses. Et renvoyez-la au messager de son vivant à sa personne et après sa mort, à sa voix, à sa guidée. Alayhi salatu wassalam. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire que la foi complète en Allah et au jour dernier implique que dès lors qu'il y a divergence, on revienne au Coran et à la Sunna. Voilà ce qui est de meilleure interprétation. Donc, c'est le jugement d'Allah Azza wa Jal qu'il faut prendre. Et dès lors que dans le jugement d'Allah, nous voyons qui est dans l'erreur, nous devons dire qu'il est dans l'erreur. Et il doit lui-même accepter qu'il est dans l'erreur et revenir sur celle-ci. Et quand on voit que le vrai est avec tel ou tel, peu importe qui est la personne, ce qui nous intéresse, c'est de suivre le vrai qui plaît à Allah. Eh bien, tout le monde doit l'accepter et le suivre. L'auteur, rahimahullah, a dit, wa qala ibn Abbas, juste avant de citer ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas, Allah Azza wa Jalla a dit donc dans ce verset, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, ceux qui ont divisé leur religion, émietté leur religion. Dans une lecture authentique, vous savez que dans le Coran il y a plusieurs lectures, dans une lecture authentique, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا, certes ceux qui ont fait scission d'avec leur religion. Donc, فَرَّقُوا et فَرَّقُوا. Farraqu, c'est ceux qui ont émietté la religion. Et farraqu, c'est ceux qui ont fait scission d'avec la religion. Il n'y a pas de contradiction, les deux sens se rejoignent. Les lectures différentes du Coran ne se contredisent en aucun cas. Seulement, elles peuvent apporter des détails les unes aux autres. Et donc, on voit que ces gens-là, et c'est la lecture de Hamza et Al-Kisa'i, on voit dans cette lecture-là, que ces gens-là ont fait scission, ils se sont séparés de la religion. Ils se sont séparés de la religion dans le sens où ils ne sont pas soumis pleinement à l'islam d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ils ont choisi ce qui leur plaît Et quant à ce qui ne leur plaît pas, ils ont pris autre chose. Ils ont fait autre chose. Ils se sont séparés de la sunna du prophète. Alayhi salatu wassalam. Et pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils ont fait scission avec la religion et qu'ils ont innové beaucoup de choses dans la religion, ils ont pris leurs innovations en réalité des actions retrouvées dans le judaïsme, dans le christianisme, chez les mazdéens, chez les gens athées ou autres. Comme c'est le cas de Al-Jahm ibn Safwan, le mentor de la secte appelée Al-Jahmiya. Al-Jahm ibn Safwan, comment est-ce qu'il est tombé dans cet égarement? Lorsqu'il a rencontré des philosophes en Inde qui ont débattu avec lui et ont réussi à le faire douter à un point tel qu'il a arrêté la prière pendant 40 jours. Car il doutait d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Puis il a repris avec une aqida nouvelle. Wal'iyadu billah. Et il est une des têtes de l'innovation, une des pires innovations apparues dans l'histoire de l'islam. À tel point que les savants disent que les Jahmiya n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ne font même pas partie des sectes affiliées à l'islam, mais jugées dans l'égarement. Ils font partie des sectes sorties de l'islam, wal'iyadu billah, puisqu'ils nient les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc au final, ils nient Allah, subhanahu wa ta'ala. طيب. L'auteur rahimahullah a dit, وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Dans le sens du verset, Abdullah ibn Abbas a dit concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où des visages seront noircis et d'autres blanchis. Il va nous expliquer ce verset en nous disant تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. Seront blanchis les visages des adeptes de la sunna et de la cohésion. Seront noircis les visages des adeptes de l'innovation et de la division. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que ces gens-là auront des visages noircis le jour dernier. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous dit que les gens de la bid'a sont les concernés par ce verset et, ou font partie des concernés par ce verset. Mais avant, pour bien comprendre ce verset, le Cheikh Saleh Al-Fawzan a cité les versets précédents. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ô vous qui avez eu la foi, si vous obéissez à une partie des gens qui ont reçu le livre, ils vous rendront mécréants après avoir eu la foi. Ils vous feront tomber dans la mécréance après avoir eu la foi. Wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fikum rasuluh. Comment pouvez-vous mécroire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'il y a avec vous son messager? Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Et quiconque s'attache à Allah aura certes été guidé vers le droit chemin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez eu la foi, faites preuve de piété envers Allah comme il se doit et ne mourrez que pleinement soumis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donc dans ce verset ordonné de se cramponner au câble d'Allah Et le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala a été expliqué par plusieurs choses qui ne se contredisent pas. Et vous devez savoir que dans le Coran, lorsque les savants du tafsir donnent plusieurs explications en verset qui ne se contredisent pas les unes avec les autres, alors elles sont toutes acceptées, toutes valables, toutes bonnes. Dans certaines explications, nous voyons que le Hablullah, le câble d'Allah auquel il faut se cramponner, c'est le Coran. Dans certaines, l'Islam. Dans d'autres, le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez que ces choses-là ne se contredisent absolument pas. Donc quand on dit de se cramponner au câble d'Allah, le câble d'Allah, c'est la religion d'Allah. Et la religion d'Allah est dans le Coran. La religion d'Allah est dans la Sunna. Donc c'est à tout cela qu'il faut se cramponner. وَلَا تَفَرَّقُوا nous dit Allah Azza wa Jal. Après nous avoir ordonné de s'unir, il nous interdit de nous désunir. C'est-à-dire de former des groupes, de former différents groupes, différentes voies, différentes sectes, différentes idéologies. Tout cela est interdit. On doit revenir aux époques où ils ne divergeaient pas dans la croyance et avoir la croyance identique à la leur. Et toute nouvelle croyance survenue après l'époque de la cohésion, de l'union entre les musulmans, est à rejeter, elle est inacceptable chez Allah. Puis Allah Azza wa Jal nous dit: وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis et qu'il a uni vos cœurs. Vous êtes alors devenus par sa grâce des frères. Allah Azza wa Jal s'adresse ici au peuple des Khazraj et des Aous, les deux tribus de la ville de Médine, qui n'ont jamais connu d'union ni d'entente. Ils étaient dans des guerres permanentes, ils s'entretuaient les uns les autres. Ils n'ont jamais trouvé de terrain d'entente, de réconciliation. Puis quand l'islam est venu et qu'ils y ont adhéré, ils se sont aimés et sont devenus des frères sans pareil. Allah Azza wa Jal leur rappelle ce bienfait. Souvenez-vous que par cette religion qu'est l'islam, vous avez mis un terme à tous vos désaccords, à tel point que les uns les autres vous aimiez, si bien que l'un d'entre vous était capable de tout donner à son co-religionnaire, qui était pourtant son ennemi avant l'arrivée de cette religion. Rappelez-vous donc de ce bienfait énorme d'Allah qu'est l'islam. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Et vous étiez sur le bord d'un précipice menant au feu. Allah vous en a sauvé. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. C'est ainsi qu'Allah expose ces versets. Peut-être seriez-vous guidés. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Que soit issue de vous une communauté appelant au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ. Qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux-là sont ceux qui réussissent. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé aux sahaba, radiyallahu anhum, qui étaient divisés, qu'autrefois ils étaient divisés avant de s'unir, et que l'islam les a unis. Et l'islam, dans toute son entièreté, avec la croyance que l'on doit avoir dans l'islam, avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on apprend dans l'islam, avec l'unicité d'Allah dans l'adoration, seul Allah doit être adoré, subhanahu wa ta'ala, tout ce que l'on apprend dans ces choses-là, dans l'islam, dans la religion d'Allah, Azza wa Jal, tout cela doit être accepté car c'est ça qui a causé l'union des sahaba, qui étaient pourtant des gens désunis avant l'islam et avant cette croyance islamique qu'ils avaient et auxquelles ils ont adhéré. Ainsi, ceux qui se sont divisés, Allah Azza wa Jal nous dit « وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ceux-là auront un châtiment immense. Ils auront un châtiment immense, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et après ça, Allah Azza wa Jal nous dit يَوْمَ تَبِيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. Le jour où des visages seront blanchis et d'autres noircis. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, nous dit, les visages noircis sont ceux des gens de l'innovation, et les visages blanchis seront ceux des gens de la sunna. Car l'innovation est un mal pur. L'innovation noircit ton visage yawm al-qiyam et elle assombrit la vie de la personne. Combien de gens ont perdu une vie entière dans l'innovation, pensant se rapprocher d'Allah, ne faisant en réalité que s'en éloigner. Wal'iyadu billah. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est à prendre pleinement. Et on ne peut pas choisir ce que nous aimons de cette religion et délaisser ce que nous n'aimons pas pour faire autre chose, que ce soit pour innover ou pour suivre ce qui a été innové. Cela est interdit dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il adviendra de ces gens-là, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, le jour de la résurrection. Ceux qui persistent dans leur division et qui se fanatisent pour leur opinion, leur idée, leur idéologie, leurs visages seront noircis le jour dernier. Quant à ceux qui s'unissent sur la vérité, ils seront blanchis par Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens de l'innovation, ils ont menti sur Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans Surat Az-Zumar, verset qui ne me vient plus à l'esprit, de ceux dont les visages seront noircis justement. Si le verset me revient, je l'évoquerai, sinon le but est compris, bi'idhnillah. Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit, عن عبد الله ibn عمر رضي الله عنهما. Naam, le verset est le suivant. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Et le jour de la résurrection, tu verras, que ceux qui mentaient sur Allah auront des visages noircis. Ils mentaient sur Allah quand ils interprétaient ses noms et ses attributs, n'est-ce pas? Quand ils niaient les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Ils mentaient sur Allah, Azza wa Jal, quand ils rendaient licite l'adoration des tombes. Quand il rendait licite le fait de se rendre chez les devins, les sorciers, les charlatans, les marabouts et autres. Il mentait sur Allah quand il disait que tout cela faisait partie de la religion. Il mentait sur Allah subhanahu wa ta'ala quand il disait qu'il était permis pour invoquer Allah de solliciter des intermédiaires, que ce soit des gens morts ou vivants, qui sont décrits comme étant saints, pieux, proches d'Allah. Il mentait sur Allah. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, l'a interdit formellement. Allah lui-même, azza wa jal, l'a formellement interdit. Voilà ce qu'encourent ces gens par ces agissements. L'auteur, rahimahullah, dit, عن عبد الله ibn عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتمام الحديث وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agré lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera à ma communauté ce qui est arrivé à la communauté des enfants d'Israël. En arabe, la formule, حذو النعل بالنعل. C'est une comparaison qui est faite comme les sandales qui sont portées aux pieds de la personne, elles sont proches, n'est-ce pas? Et lorsque la personne avance en portant ces sandales-là, les sandales se suivent les unes les autres. Nous sommes d'accord? Eh bien, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit que de la même façon, il arrivera à ma communauté ce qui est arrivé à la communauté des enfants d'Israël. Au point où si l'un d'entre eux, les enfants d'Israël, commet la fornication avec sa mère en public, il y aura dans ma communauté des gens qui le feront aussi. Allahu Akbar. Et certes, la tribu des Bani Israël s'est divisée en 72 groupes. Et ma communauté va se diviser en 73 groupes. Ils seront tous au feu, à l'exception d'un seul. Il fut dit, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Le prophète alayhi salatu wa salam dit, ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui suivent ma voie et la voie de mes compagnons. Radiallahu anhum. Allah subhanahu, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, kulluha fi nar illa wahida. Ils sont tous au feu, sauf une. Cela ne veut pas dire qu'ils ont mécru. Il s'agit ici de gens qui sont musulmans, mais innovateurs. Pas ceux qui ont mécru. Ceux qui ont mécru ne sont pas concernés, c'est-à-dire les sectes aux innovations qui relèvent de la mécréance et qui les ont fait sortir de l'islam, ne sont pas concernés. Le hadith des 73 sectes, le hadith des 73 groupes ou fractions, dont 72 seront au feu, les 72 sont des musulmans innovateurs. Ils ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, a été interrogé au sujet de ces 72 groupes, ceux de l'égarement. Il répondit en disant que la base de ces 72 groupes sont quatre groupes. Les chiites, les khawarij, les murji'a et les qadariya. Les chiites qui ont eu la croyance erronée à l'égard des compagnons, des sahaba, allant jusqu'à dire qu'ils sont sortis de l'islam pour la plupart d'entre eux, qui ont beaucoup d'autres croyances. Al-Khawarij, qui pareil, se sont retournés contre les détenteurs de l'autorité parmi les dirigeants des musulmans dans les époques des salafs, parmi les époques des sahaba. Ils se sont retournés contre Uthman ibn Affan, un des meilleurs hommes ayant vécu sur cette terre, contre Ali ibn Abi Talib, contre Muawiyah et autres. Al-Murji'a, ceux qui ont dit que la foi, les actions ne font pas partie de la foi. Peu importe ce que l'on fait, la foi est identique que celle de Jibril, alayhi salam. Même si l'on ne prie pas, on consomme l'alcool, wal'iyadu billah. Et ils se sont appuyés sur les textes suscitant l'espoir, en négligeant et en délaissant les textes mettant en garde contre les péchés et suscitant la crainte d'Allah, azza wa jal. Al-Qadariya, ceux qui ont renié le destin. Donc, la base des groupes de l'égarement, nous dit Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, sont quatre, les chiites, les khawarij, les murji'a, les qadariya. Ensuite, vont sortir de ces groupes-là d'autres groupes. Et chacun va avoir sa croyance nouvelle, et ainsi de suite. Jusqu'à former des dizaines et des dizaines et des dizaines de groupes de l'égarement. Wal'iyadu billah. Mais souvent, l'on voit que les groupes, par exemple contemporains, rejoignent ces groupes de base dans des croyances. Par exemple, l'Ikhwan al-Muslimoun rejoignent les Khawarij. Sans le moindre doute. Les gens du soufisme, ils rejoignent les chiites dans la vénération des tombes notamment, en leur donnant le droit d'Allah qui est l'adoration, en les sollicitant comme on sollicite Allah, en leur demandant ce que seul Allah est capable d'attribuer et de donner. Subhanahu wa ta'ala. Et ayant cité ces quatre groupes égarés, Abdullah ibn Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été ensuite interrogé sur les Jahmiyyah. Il répondit, ceux-là ne font même pas partie de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, nous pouvons citer les erreurs prononcées par les juifs et les chrétiens mais nous ne pouvons pas citer les erreurs prononcées par les Jahmiyyah, tellement elles sont gravissimes. Allahu Akbar. Ya Subhanallah. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous met en garde contre toutes ces divisions, contre tous ces groupes, contre toutes ces idées sans fondement religieux dans le Coran et dans la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que ces divisions qui ont pris naissance dans le peuple des Banu Israël, elles prennent naissance dans notre communauté aussi. Car il nous a informé que les membres de la communauté, pas tous bien sûr, mais certains voire beaucoup, se sont mis, et pour d'autres vont se mettre, à suivre les autres communautés, les communautés étrangères à l'islam, dans les mœurs, dans le dogme, dans la croyance, dans la morale, dans le comportement, dans la manière de vivre, dans les façons de parler, dans les tenues vestimentaires, et j'en passe. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Délaisser la source de la fierté qu'est la religion d'Allah, Azza wa Jal, pour suivre autre que la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque ces choses apparaissent, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, il est un devoir aux musulmans de ne pas se fanatiser pour ces choses nouvelles et de s'investir à suivre la sunna et à suivre le Coran pour être protégé et épargné de ces égarements. Et cette information du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un miracle montrant sa prophétie. Parce qu'au moment où il tient ses propos, tous ces groupes n'existent pas. Et après sa mort, plus loin après sa mort, ces groupes vont commencer à arriver les uns après les autres. Qu'aurait-il dit s'il vivait à notre époque? Qu'aurait dit les sahaba radiyallahu anhum s'il vivait à cette époque où les groupes se comptent par dizaines? Les groupes égarés se comptent par dizaines. Les croyances innovées, erronées, elles se comptent par dizaines. Et chacun disent aimer les compagnons. Qu'auraient dit ses compagnons s'ils voyaient tous ces gens-là adhérer à des croyances qui ne sont pas les leurs, prétendre qu'ils les aiment? C'est le comble quand même. Qu'Allah Azza wa Jal nous montre la voie droite, la guider et nous fasse s'y accrocher. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre dans ce hadith que les Banu Israël se sont divisés et ils ont formé 72 groupes. C'est-à-dire que 1 gagne le paradis et 71 au feu. Et les musulmans se sont divisés en 73, 72 au feu et 1 au paradis. Quand on dit qu'ils sont au feu, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, qu'ils ont mécru. Deuxièmement, ça ne veut pas forcément dire qu'ils iront au feu. Et cela veut dire qu'ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle cela, mes chers frères, nusus al-wa'id, les textes de la menace. Lorsque tu vois dans le Coran et la Sunna des textes de menace d'entrer au feu pour tel et tel péché, pour tel et tel désobéissance à Allah Azza wa Jal, quand la personne citée ou concernée par le texte est croyante, c'est-à-dire qu'elle ne commet pas de shirk, mais elle a commis ce péché cité, elle est sous la menace d'Allah. Parce que nous apprenons en conciliant tous les textes, du moins les savants nous l'ont enseigné, que Allah Azza wa Jal, lorsque quelqu'un commet un péché majeur sans s'en repentir, va choisir soit de le châtier pour son péché, puis de l'introduire au paradis après avoir réglé ses comptes, si c'est comme ça que je peux le dire, ou payer ses péchés, ou décharger de ses péchés. Soit il va lui faire miséricorde et le faire entrer au paradis, subhanahu wa ta'ala. Donc quand dans les versets nous voyons, ils sont au feu, c'est-à-dire ils sont au feu si Allah décide au final de les y introduire. Donc ils sont menacés du feu. Est-ce qu'ils vont y entrer? Cela va dépendre du jugement qu'Allah va choisir le jour dernier. Mais en tout cas, ils risquent le feu. Ça, c'est ce que l'on dit quand on est dans une assise de science, où l'on apprend les règles de la religion d'Allah, les fondements de la compréhension des hadiths. Mais quand on cite ce genre de récit dans une exhortation, à titre de rappel, à la masse des musulmans, on n'entre pas dans ces détails. Comme nous l'enseigne l'imam Ahmed rahimahullah dans son écrit bénéfique « Usul Sunna », les fondements de la Sunna. Dans un passage qu'il a dédié à cette question-là, il dit que les textes qui font susciter la crainte d'Allah Azza wa Jal, ils sont à laisser dans leur apparent. Quand on les cite aux gens à titre de rappel et autres, on les laisse comme ils sont. On leur dit « ils seront tous au feu sauf un ». Et on n'entre pas dans ce détail-là. Parce que quand tu entres dans ce détail-là et tu n'es pas dans le cadre de l'étude, tu es dans le cadre du rappel, de l'exhortation, ça peut amoindrir. Ah, ce n'est pas sûr d'entrer au feu, donc ce n'est pas aussi grave que ça. Il ne faut pas faire cet effet au public. Donc quand tu es dans un cadre d'apprentissage de détails, oui, tu cites tout cela. Quand tu es dans un cadre de rappel, d'exhortation, non. Tous ces hadiths de menace, tu les cites comme ils sont. Ainsi, vous avez compris, tous au feu, sauf un. Le salut n'est nulle part ailleurs que dans le suivi du Coran et la Sunna avec la voix des pieux prédécesseurs, manhaj as-salaf as-salih. L'auteur, rahimahullah, continue, فَلْيَتَأَمَّلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. Voilà une parole de l'auteur qui nous dit que le croyant médite donc, celui qui espère en la rencontre d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout lorsqu'il nous dit ma ana alayhi wa ashabi, ceux qui sont sur ma voie et la voie de mes compagnons. Il faut méditer ces hadiths-là. Et justement, le chapitre, c'est d'accepter toutes les parties de l'islam, n'est-ce pas? Eh bien, certains refusent ce genre de récit du prophète, alayhi salatu wassalam. Soit ils vont dire que ce sont des hadiths qui sont mensongers, faussement imputés au prophète, alayhi salatu wassalam. Soit ils vont dire que ces hadiths concernent une époque révolue. Wal'iyadu billah. Et donc il n'y a plus tout cela. Soit ils vont dire que ce hadith ne concerne que les pires sectes, les pires groupes. C'est-à-dire que d'après ce genre de personnes égarantes et ignorantes, un petit groupe, une petite innovation ne rentre pas dans ça, comme s'il existait une petite innovation dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, toute innovation est un égarement, tout égarement est dans le feu, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le musulman qui porte conseil à sa propre personne et qui est sincère envers lui-même, il médite la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Allah azza wa jalla a dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas d'après la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces choses-là sont inévitables. La division est inévitable. Mais ce que le musulman doit faire, c'est s'accramponner à la sunna. Cela implique d'apprendre cette sunna. D'apprendre la croyance authentique de la sunna. D'apprendre la voie des pieux prédécesseurs pour t'y cramponner. Car une chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas t'y attacher. Tu ne peux pas la suivre. Et donc, si tu ne connais pas l'égarement, tu es susceptible d'y tomber, d'emprunter les routes de l'égarement. L'auteur, rahimahullah, dit, « Ya li hadhihi al-maw'idati law wafaqat min al-qulubi hayatan. » Ô combien est immense cette exhortation si seulement elle atteignait des cœurs vivants. Cette exhortation du prophète, alayhi salatu wassalam, si elle atteignait des cœurs vivants, on leur parle d'entrer au feu, on leur parle d'entrer au paradis, et on leur dit que dans la communauté, il va y avoir 72 groupes égarés, et un seul sur la vérité. C'est-à-dire que la plupart des gens qui s'attribuent à cette communauté ne sont pas dans la bonne guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi, il faut méditer ce récit et se dire, où suis-je? Est-ce que je suis la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou alors je suis la voix d'un tel et un tel parmi les gens venus après lui, alayhi salat wa salam. Il n'est donc pas permis de dire, da'un nas ala ma hum alayh. Laissez les gens sur ce qu'ils ont choisi de suivre. Dans l'islam, ça n'existe pas, ça. Dans l'islam, ça n'est pas permis. Soi-disant, ce que l'on appelle hurriyat al-ra'i, la liberté d'opinion. Quand on parle de croyance islamique, on parle de destination finale, que sont le paradis ou l'enfer. On peut avoir une liberté d'opinion pour ça? Si chacun se dit libre de penser comme il veut, et chacun choisit ce qu'il veut, comment sait-on s'ils sont dans la guidée, s'ils sont dans l'égarement? Ils ne sont pas libres dans la religion. Dans la religion, tu n'es pas libre de penser comme tu veux. Dans la religion, tu te soumets à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment il s'appelle? Tariq al-Suwaydan, koétien d'origine, qui est connu, qui prêche, qui passe à la télé, qui est vu et observé par beaucoup de gens, a dit, au nom de la liberté d'opinion, tout le monde a le droit de mécroire, tout le monde a le droit de s'opposer à Allah, tout le monde a le droit de s'opposer au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cité le verset où Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Kahf, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque veut qu'il croit et quiconque veut qu'il mécroit. Et bien intentionnellement, il a omis de citer la suite du verset où Allah Azza wa Jalla menace ceux qui mécroient. Donc on comprend avec la suite du verset que quand Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens du verset, quiconque veut qu'il mécroit, c'est-à-dire, c'est une menace. Mécrois et tu verras ce qui t'arrivera. Ce n'est pas une permission de mécroire. Et il dit au nom de la liberté d'opinion, on peut mécroire en Allah Azza wa Jalla. Alors pourquoi est-ce que le prophète a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce que le Coran a été révélé si au final on peut ne pas le prendre? On peut ne pas le suivre, on peut innover comme on veut. À quoi sert tout ça? À quoi sert cette sira, cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous venez écouter dans les assises des innovateurs et qui au final ne vous servent à rien puisque vous innovez la sira, vous ne la suivez pas? À quoi ça sert tout cela? Ça c'est la voie de l'égarement. Wal'iyadu billah. La sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle t'enseigne la soumission, elle t'enseigne le suivi. Et les gens de la sunna, quand ils enseignent la sira, ils ne font pas que conter ou raconter des histoires. Mais ils citent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils en tirent les conclusions. Il est arrivé aux compagnons telle chose parce qu'ils ont commis telle erreur. Nous autres ne devons pas faire cette même erreur ou la commettre. Et ainsi de suite. Le devoir aux musulmans est donc de suivre la vérité et d'accepter ce qui vient d'Allah Azza wa Jal dès lors qu'il est avéré que cette chose vient bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion ne se fait pas avec l'opinion ou avec l'avis de quelqu'un ou la logique. Abdullah Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agré, a dit لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلاه. Si la religion d'Allah Azza wa Jal s'appliquait d'après les opinions, il aurait été plus logique, lorsque l'on fait le frottement sur les chaussettes ou l'essuyage sur les chaussettes, de le faire en dessous et pas au-dessus. Quand tu fais tes ablutions, puis tu enfiles des chaussettes, tu fais ta prière. Après cette prière, tu perds tes ablutions. Fait partie de la sunna lorsque tu vas renouveler ces ablutions, de mouiller tes mains et de les passer sur le dessus du pied, non pas sur le plat du pied, le dessous. Et après, tes ablutions sont correctes. Ali ibn Abi Talib dit que si la religion s'appliquait d'après l'opinion, d'après ce qui paraît logique à la personne, il aurait été plus logique c'est-à-dire puisque l'on marche au sol, de passer les mains en dessous des pieds, car c'est en dessous des pieds qui touche le sol, plutôt que de les passer au-dessus. Regardez ce qu'il dit tout de suite après. وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْسَحُ عَلَىٰ أَعْلَى الْخُفْ. Et j'ai certes vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus de ses pieds. C'est-à-dire, ça s'arrête là. Il n'y a plus de logique. J'ai vu le prophète faire, alayhi salatu wa sallam. Ma logique ici n'a plus sa place. Elle ne sert à rien. Je dois me soumettre. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit, ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغين في الإسلام سنة الجاهلية. Également, il est rapporté chez Abu Daoud le hadith suivant. Viendra dans ma communauté un peuple dont les passions couleront en eux. Les innovations, les passions couleront en eux. Comme la rage qui se propage dans le corps, cette maladie qui atteint le chien, au point de ne laisser aucune veine, ni articulation sans les pénétrer. Des gens viendront et ils seront absorbés par les innovations. Wal'iyadu billah, au point de ne laisser aucune veine ni articulation sans être pénétrés par le suivi de ses passions. Wal'iyadu billah. Il y a des gens qui aiment tellement l'innovation qu'ils ont tourné le dos à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils veulent invoquer Allah, ils ne le font pas à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils veulent prier, ils ne le font pas à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils veulent prêcher, ils ne le font pas à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils veulent lire le Coran, ils ne le font pas à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils veulent accomplir le pèlerinage, ils ne le font pas à la manière du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils sont absorbés. Ils sont dévorés par les innovations. Wal'iyadu billah. Et ça c'est gravissime. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, concernant le suivi des passions, أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. S'adressant à son prophète alayhi salatu wassalam, as-tu vu celui qui a fait de ses passions une divinité? Pourrais-tu en être garant? Es-tu responsable de celui qui a suivi ses passions à tel point qu'elles sont devenues pour lui une divinité adorée? Et dans l'autre verset, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. As-tu vu celui qui a fait de ses passions une divinité et qui a été égaré par Allah avec science? وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. Et dont le cœur et l'ouïe ont été cachetés, scellés. Et un rideau d'aveuglement a été posé sur sa vue. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Quiconque peut le guider après Allah, Azza wa Jal. Il y a donc des gens qui suivent leur passion au point d'être aveuglés par Allah, Azza wa Jal. Lorsque je parle à une personne qui suit la Tijaniya, cette voie égarée du soufisme, elle me répond, tu peux me dire tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à m'enlever ça de la tête. C'est exactement la passion qui coule dans ses veines, qui n'a laissé aucune veine, ni aucune articulation sans la pénétrer au point où la personne est aveuglée. Tu lui dis des paroles claires. Qala Allah, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, ces mêmes paroles qui ont éduqué les compagnons et qui ont été appliquées par les compagnons. Cet homme qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient à 10 pour prêter allégeance au prophète alayhi salatu wa sallam. 9 sont acceptés, le 10e est rejeté et les compagnons s'étonnent et lui demandent, pourquoi est-ce que tu l'as rejeté? Il leur dit, parce qu'il porte une amulette sur son bras. Une amulette, un talisman, un porte-bonheur, un gris-gris, un fétiche, etc. Il porte cela sur son bras. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit cette parole. Cet homme n'a pas réfléchi un seul instant, comme le feraient beaucoup de gens à cette époque, en disant, c'est une religion nouvelle. Que dis-tu? Il n'y a aucun mal à cela. Il a arraché cela de son bras et l'a lancé au sol. Puis le prophète, alayhi salatu wa salam, lui a tendu la main. Et lui a dit, Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Quiconque s'attache une amulette aura commis le shirk. Wal'iyadu billah. Un homme parmi les compagnons qui portait de l'or, une bague, le prophète alayhi salatu wa salam lui retire du doigt et la jette au feu. La jette au sol, pardon. Il ne la ramasse pas. Les compagnons lui disent, tu pourrais avoir une utilité, ramasse-la pour la faire fondre, la vendre ou autre. Il dit, jamais je ne ramasserai quelque chose que le prophète a jeté, sallallahu alayhi wa sallam. Ces mêmes compagnons qui, lorsque le prophète alayhi salat wa sallam était en prière, Jibril est venu à lui et l'a informé qu'il avait une souillure sous la sandale. Il l'a enlevé en pleine prière. Tous les compagnons ont enlevé leurs sandales dans la prière. Il s'est retourné et leur a dit, mais pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Ils lui ont dit, ya Rasulallah, nous t'avons vu retirer tes sandales. Il ne leur a même pas demandé. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi. Radiyallahu anhum. Ce n'est pas pour rien que Allah en parle dans le Coran de ces gens-là. Et ce n'est pas pour rien que ce sont eux que l'on doit suivre. Comment délaisser ces gens-là? Pour suivre des penseurs pour contemporains? Qui n'ont rien à voir avec le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète leur a enseigné que s'il a enlevé ses sandales, c'est parce que Jibril est venu l'informer jusqu'à la fin du hadith. Ces mêmes compagnons, parmi lesquels Abdullah ibn Umar, qui suivait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des fois il marchait dans des endroits et il s'abaissait comme si il passait sous un arbre ou sous la branche d'un arbre. Et son père lui demande, que fais-tu? Où les compagnons lui demandent, que fais-tu? Il répond, nous étions un jour avec le prophète, alayhi salatu wassalam, à cet endroit, il y avait un arbre. Et il y avait une branche qui gênait le passage, et le prophète s'est abaissé, je m'abaisse ici aussi. Le prophète, Omar, radiallahu anhu, a craint pour son fils. Qu'il ne soit, touché dans sa raison, tellement il suivait, alayhi salatu wassalam. L'islam est à t'apprendre dans toutes ses parties. Ne dis pas je suis tel secte, je suis tel groupe. Ne dis pas mes ancêtres. Ne dis pas mon groupe et autres. Ne dis pas ça. Dis, est-ce que ça vient d'Allah? Si oui, ne discute plus. Dis, est-ce que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, ne discute plus. Dis que tes ancêtres sont des humains. Qu'ils sont sujets à l'erreur. Qu'ils se sont peut-être tout simplement trompés. Il est possible de se tromper. Peut-être qu'ils n'ont pas eu accès à la connaissance à laquelle toi, Allah Azza wa Jal, t'as facilité l'accès, tout simplement. Et dis-toi que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que quand le fils d'Adam meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois, parmi lesquelles un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Soit un enfant pieux pour invoquer en leur faveur, afin que leur péché, leur erreur, leur soit pardonné par Allah. Et un enfant pieux, c'est en suivant la sunna, et ne soit pas un enfant qui les suit dans leurs erreurs. Car toi, tu es différent d'eux, eux peut-être ne le savaient pas, mais toi maintenant tu l'as su. Tu ne peux donc plus dire, je les suis. Car peut-être que eux, s'ils avaient su, ils n'auraient plus suivi ce chemin-là. Donc cet argument de dire, la coutume, la tribu, le pays, les ancêtres, les origines, le groupe, l'idée, le cheikh, l'imam de tel endroit, Ça n'a pas sa place, mes frères, chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui est valorisé chez Allah, c'est le suivi de l'islam dans son entièreté. Celui qui voit la vérité apparaître et ne la suit pas, se met en danger. Il est un devoir aux musulmans de suivre la vérité, même si elle contredit ses patients. Il est un devoir aux musulmans d'éduquer ses patients, afin que ses patients deviennent l'envie de suivre la vérité. Et ça s'apprend quand on connaît Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Et si la vérité suivait leur passion, si c'est la vérité qui suivait leur passion, les cieux et la terre et leurs habitants auraient été pervertis. وَفِي آخِرِ الزَّمَانِ تَكْثُرُ الْأَهْوَاءُ فِي النَّاسِ. Et dans les époques nouvelles, vers qui se rapproche de la fin des temps, se multiplieront les passions, les innovations chez les gens. Comme se propage la rage dans le corps, lorsque l'homme est mordu par ce chien enragé, il attrape cette maladie et elle lui prend tout le corps. Il en est de même pour les passions et les innovations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك